Je vous propose d'entrer maintenant dans un temps d'enseignement. Alors, je sais que c'est encore l'été. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous proposer un gros challenge. Est-ce que vous êtes prêts à le relever? Ouais, il y en a une au moins. Une au moins, c'est pas mal. C'est encore l'été, mais je vais vous proposer de lire un épître en entier. Alors, pour ceux qui auraient une envie très soudaine de quitter la salle, discrètement craignant pour leur repas de midi, je vais vite vous rassurer. On va certes lire un épître en entier, ça, c'est pas une blague, mais j'ai choisi pour ce matin la plus petite des lettres de Paul. La plus petite des lettres de Paul, elle se nomme Philémon. Alors, je ne sais pas si on va arriver, voilà. 25 versets. Ça devrait aller, hein ? On prend courage, on va le faire. Paul, le nôtre, hein, le pasteur ici, pas l'apôtre, nous a dressé la semaine dernière le portrait de trois personnes. Est-ce que vous vous souvenez des trois personnes ? Ou est-ce que le cerveau est encore en vacances ? Dans Esther, ouais, c'est bien. Vashti, Mardoché, Esther. Hein, vous vous rappelez qu'ils ont fait preuve d'un courage incroyable, chacun dans leur contexte et chacun dans leur situation. Ben moi aussi aujourd'hui, je vais dresser le portrait de trois personnages qui sont concernés par cette lettre à Philémon. Et on va le voir, eux aussi sont dans des situations très différentes. Alors avant de lire la parole et de rentrer dans le challenge que je vous ai proposé, je vais quand même faire un bref descriptif du contexte et de ces personnages. Alors, je vous l'ai dit, il y a trois personnages. Le premier personnage, ce n'est pas une surprise, il s'appelle Philémon. Philémon, c'est un membre important de l'église de Colosse. Il est probable que la lettre aux Colossiens, d'ailleurs, lui soit destinée, à lui et à ses autres compagnons, parce qu'il fait partie des responsables de l'église. Peut-être qu'on peut cliquer sur... un coup, voilà, Philémon. C'est d'ailleurs lui, Philémon, qui accueille l'église de maison de Colosse. À l'époque, il n'y avait pas des bâtiments spéciaux. Hein. Comme aujourd'hui, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Et c'est Philémon qui accueillait l'église dans sa maison. Et comme c'était courant à l'époque, dans l'Empire romain, ben Philémon, il était aussi propriétaire d'esclaves qui travaillaient pour lui. Philémon, c'est un homme bien. En tout cas, vous allez voir que Paul l'estime tout particulièrement. D'ailleurs, il le remercie. Il le remercie pour tout le travail qu'il fait dans cette église, pour annoncer l'évangile. Il le remercie pour l'amour qu'il témoigne aux autres. Premier personnage. Deuxième personnage, il a un nom un peu bizarre, mais ça permet de le retenir, c'est Onésime. Onésime. Onésime, c'est l'esclave. C'est un esclave qui appartient à Philémon, mais cet esclave a pris la fuite. Il a pris la fuite de son maître et il s'est réfugié. Il s'est réfugié auprès de Paul. Alors, on ne sait pas précisément, quand on lit la lettre, quelle faute il a fait pour avoir à se sauver de son maître. On ne sait pas s'il a fait quelque chose de grave, si seulement c'est un désir de liberté, mais je peux vous dire que déserter comme ça, c'est extrêmement grave pour l'époque. Je pense qu'il aurait pu terminer à minima en prison, voire être mis à mort. La racine du prénom Onésime est grecque. Elle vient d'Onésimos, qui veut dire utile. C'est bien à propos pour un esclave. Vous allez voir que Paul y joue un peu là-dessus, d'ailleurs, dans un de ses versets. Et ce qui va se passer, c'est que quand Onésime va aller voir Paul, Paul va le prendre en affection. Et Onésime va se convertir. Il va être instruit par l'apôtre. Et il y a un truc étonnant qui va se produire. Malgré ce lien fort qui va être construit entre Onésime et Paul, eh bien Paul va écrire la lettre que nous allons lire pour renvoyer Onésime vers son maître Philémon. Onésime qui va devoir affronter son maître après avoir fui. Le troisième personnage, c'est Paul. Alors, je ne vais pas présenter Paul, sinon on en a pour un petit moment. c'est l'auteur de ce passage. C'est d'ailleurs une des rares lettres qui est adressée à un individu en particulier dans la Bible. Cette lettre, elle a été écrite vers 60 après Jésus-Christ. Alors, le christianisme alors était tout jeune. Paul, lui, était déjà un peu âgé quand il l'écrit et il se trouve à Rome alors qu'il est en résidence surveillée. Moi, j'ai adoré ce passage. Je l'ai beaucoup apprécié parce qu'on va sentir toute l'émotion de Paul. À la fois, tout son respect pour Philémon, qui est quand même le maître trahi hein, par son esclave, mais aussi, de l'autre côté, tout l'amour qu'il a pour Onésime, à qui il demande donc quelque chose d'extrêmement compliqué. Retourner auprès de celui à qui il a fait du tort au péril de sa vie. Ça vous donne envie de lire le passage, non ? J'espère, ok. Alors, eh ben, on y va. Lisons-le ensemble. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Appia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. C'est les salutations. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Une belle personne, ce Philémon. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ, je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi, pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile, mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Il lui rappelle quand même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que ce que je te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est une belle lettre. Facile à lire, bien écrite, profonde. Elle dégage quelque chose de spécial. On y ressent beaucoup de sentiments, beaucoup de convictions. Mais peut-être que vous vous demandez ce que vient faire cette lettre dans la Bible. Quand finalement, elle concerne brièvement deux personnes qui ont vécu il y a 2000 ans. Peut-être que vous vous dites, il est gentil David, mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ces quelques versets, alors qu'aujourd'hui, l'esclavage est aboli. Quelle application je peux tirer de ça dans ma vie aujourd'hui ? En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de sujet de doctrine qui sont abordés directement là-dedans. Pourquoi est-ce que ce texte si particulier, si court, finalement si confidentiel, je le retrouve dans le canon biblique ? C'est une vraie question, ça. Je vais essayer d'y répondre. En essayant finalement de savoir qu'est-ce qu'on tire de ces trois personnages. On va les prendre un à un. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Alors, on va commencer par Onésime. Quand on y réfléchit, on voit beaucoup de passages dans la Bible où Dieu semble éprouver une affection toute particulière pour les fugitifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Adam et Ève sont les premiers qui cherchent à lui échapper et se cachent alors que Dieu les rappelle. Jacob qui fuit loin de son frère, les Israélites qui fuient l'Égypte, bien entendu les disciples qui fuient aussi après l'arrestation de Jésus. Bref, c'est une situation plutôt courante dans la Bible. Et la raison, je l'ai dit tout à l'heure, pour laquelle Onésime s'est enfui de la maison de Philémon, elle n'est pas précisée. C'est dommage. Moi, j'aimerais bien, je suis un peu curieux, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il a fait, pourquoi il est parti, qu'est-ce qui l'a amené à faire cet acte un peu fou. Mais ça n'intéresse pas Paul. En tout cas, il ne juge pas nécessaire de le rappeler et il considère que ce n'est pas le sujet, comme si finalement la conversion d'Onésime avait finalement effacé ça. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Onésime est devenu un disciple de Christ au contact de Paul. Parfois, on lit les choses avec très peu de recul, vite fait là, comme si c'était facile, tout facile, une jolie histoire finalement. Mais imaginez là, imaginez. Vous êtes un esclave fugitif, passible d'une très sévère réprimande, voire de la mort. Quelle est la dernière chose que vous avez envie de faire alors que vous avez déjà réussi à échapper à votre maître? Bien précisément, retourner auprès de lui. Et pourtant, c'est ce que Paul va lui demander. C'est pas rien pour Onésime de retourner en présence de Philémon, même si la grâce de Dieu a opéré sa conversion. Moi, quand je demande à mes enfants qui ont fait du mal à un des frères et sœurs d'aller voir et demander pardon, voilà ce que j'ai derrière. J'ai ça, moi, quand je demande à mes enfants. Va lui demander pardon. La tête en bas, avec tout un faux de raison qui explique que c'est la faute de l'autre. Voilà, un pardon, c'est compliqué. Ou alors j'ai déjà demandé pardon, elle me saoule. Je l'ai ça aussi de temps en temps. Alors j'ai pris l'exemple des enfants, parce que ça passe plus facilement le dimanche matin. Hein ? Tranquille. Mais en tant qu'adulte, on est peut-être aussi un peu concerné. Alors on ne fait pas la tête en croisant les bras, parce que sinon on vous enferme comme ça, hein, ça ne va pas. Mais qu'est-ce que c'est difficile de retourner vers quelqu'un quand il y a eu un conflit ? Plus facile d'expliquer finalement nos bonnes raisons qui nous ont poussés à agir de la sorte, ou alors on essaye de montrer que l'autre a tort. Ça me fait penser à un sketch de Raymond Devos que j'ai vu cette semaine. Il finit, hein. En résumé, je crois qu'on a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort. Vous, regardez celui-ci, il est pas mal. Dans tous les cas, cette épître, elle nous montre comment le pécheur converti doit aussi désormais marcher dans des sentiers de justice pratique au quotidien. Quand Onésime a fait du tort à son maître, il était un converti. Maintenant, il est devenu un frère bien-aimé. Mais cela ne le décharge pas des obligations contractées du fait de son ancien péché. En ce qui concerne Dieu, c'est clair. Ce péché a été pardonné, avec tous les autres d'ailleurs. Mais pour Philémon, il était nécessaire qu'il y ait une étape de confession, de restitution et de demande de pardon. Alors si on a fait du tort tangible à autrui, ça peut arriver. La seule preuve effective de repentance qui peut être donnée, c'est celle de la confession, de la restitution. C'est pas facile, hein, ça je vous le concède complètement, mais c'est aussi ça le témoignage. C'est le témoignage concret, efficace, et ça glorifie Dieu. C'est étonnant parce que j'ai vu que c'était tellement compliqué pour l'esclave de revenir vers son maître que la Bible, dans l'Ancien Testament, et dans Deutéronome 23, au verset 16, elle donne même une ordonnance par rapport à ça. Elle dit « Tu ne livreras pas à son maître un esclave qui se sera réfugié chez toi après l'avoir quitté. » C'est dans Deutéronome 23, ça. Alors certainement que cette ordonnance de l'Ancien Testament, elle s'appliquait en particulier hein, au cas d'un esclave étranger qui viendrait se réfugier en Israël. Et je pense que si elle a été donnée à ce moment-là, c'est qu'elle prenait en compte la méchanceté de l'homme, surtout quand celui-ci est en position d'autorité. Certainement, cette ordonnance, elle permettait d'éviter une vengeance cruelle du maître. Mais la vie nouvelle du chrétien, qui est offerte par Jésus, eh bien, elle rend capable d'agir avec amour, avec bonté. Et on voit, on le sent quand on le lit, le témoignage positif de l'amour de Philémon que Paul met en avant dans la lettre. Alors on comprend tout de suite pourquoi Paul ne prend pas en compte ce verset-là, mais il se sent libre de renvoyer en confiance, en sachant que Philémon est un homme de bonté. Pour moi, ça soulève des questions. Quelle perspective nouvelle l'entrée du Seigneur dans ma vie, dans notre vie, a-t-elle apporté par rapport à notre passé? Est-ce que j'ai encore des problèmes à régler, des torts à réparer dans cette vie passée? Dans quelle mesure est-ce que la relation que j'ai avec Christ, elle est porteuse de ressources nouvelles? Parce qu'il y a des ressources nouvelles pour affronter ces situations que nous avons fuies auparavant. Alors Onésime va choisir de retourner chez son maître. Il va choisir volontairement d'affronter le potentiel jugement. Mais il est convaincu que c'est ce qui est juste, encouragé par Paul, que c'est ce qu'il faut faire et qu'il ne peut pas vivre constamment dans la fuite. Vous savez, sur le chemin du retour, je pense qu'il devait chanter comme nous ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et lui, pour le coup, ça avait un vrai sens. Alors cette épître nous inculque que quand nous sommes celui qui offense, quand nous sommes celui qui est fautif, un retour en toute humilité vers celui qui a été offensé, avec confession, reconnaissance de son droit à restitution doit être réalisé. Maintenant, que retenons-nous du personnage de Philémon? Le statut de chrétien d'Onésime, on le voit, il va modifier la relation avec Philémon, le maître. Ce que nous dit le passage, c'est que le maître et l'esclave, ils sont maintenant frères. Frères dans la famille de Dieu. Alors certainement qu'Onésime, il va continuer à travailler pour Philémon. Mais ils sont égaux en Christ. L'appartenance à la famille de Dieu doit transcender toutes les distinctions parmi les croyants. Pour moi, ce texte, c'est vraiment la démonstration de ce que peut être la fraternité chrétienne, en action. Pourtant, on sait tous qu'il y a souvent des barrières entre nous. Là, c'est l'esclave et son maître. Des barrières même dans l'Église. Qu'est-ce qui nous sépare de nos frères en Christ? Dieu nous appelle, comme Philémon, à rechercher l'unité et à battre ses murs. Les relations entre chrétiens, elles doivent être marquées par le pardon, par l'acceptation de l'autre. Et le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Sommes-nous capables de pardonner à ceux qui nous ont causé du tort? C'est un acte d'amour, parce que Philémon, là, c'est l'autre facette d'Onésime. Là aussi, l'Épître nous inculque que quand c'est nous qui sommes offensés, pour le coup, eh bien, on doit être prêt à accueillir le fautif repentant, avec la reconnaissance la plus complète possible de tout ce que Dieu a opéré dans la vie du fautif. Jésus-Christ a transformé la relation entre Onésime, esclave fuyant, et Philémon, le maître trahi. Vous savez, il peut changer la pire des relations aussi, autour de nous. Il peut changer la pire des relations en amour profond. Vous croyez ça? Alors s'il y a une relation situationnelle, relationnelle dans nos vies, qui nous semble comme une impasse, il y en a, je sais, eh bien ce passage, c'est un encouragement à la réconciliation. Moi, je suis marqué dans cet épître par l'affection qui est dégagée par Paul. Il appelle Philémon son bien-aimé. Je pense vraiment que Paul aimait Philémon à double titre. D'abord parce que c'était un frère en Christ, mais aussi parce qu'il dit que c'est son compagnon d'œuvre, son bien-aimé collaborateur. Moi, je crois que quand on s'associe au service de Dieu, eh bien le lien entre les croyants sont renforcés par le service partagé. On en parlait ce matin avec Jean-René. Il disait finalement qu'on est venu peindre, là, ils étaient 5, 6, je crois, pour venir peindre. Vous avez vu comme la pièce est belle. Et bien, ça renforce les liens, on s'est mis au travail ensemble pour servir l'Église. Quand on partage une épreuve, quand on partage une réussite avec des frères et des sœurs, dans le service du Seigneur, ben, les liens se renforcent. On se sent plus proches les uns des autres. Moi, je ne sais pas comment vous vivez l'Église. Est-ce que vous êtes partie prenante dans le service ? Partie prenante dans les activités, partie prenante dans la vision, avec des frères, des sœurs dans cette assemblée, ou d'autres chrétiens d'ailleurs. Ben, si ce n'est pas le cas, il y a peut-être une dimension de l'amour fraternel qui manque. La rentrée de l'Église, c'est bientôt. C'est toujours un moment approprié pour se lancer, pour porter un projet, pour construire quelque chose avec un frère, avec une sœur. Parce que la collaboration entre chrétiens, entre disciples, c'est d'une grande richesse, parce qu'elle ouvre des portes dans nos relations. Elle permet de faciliter l'échange, d'aborder les difficultés, et plus sereinement. Parce que quand on a appris à se connaître, quand on a appris à travailler ensemble, ben c'est précisément là où on trouve de la liberté. C'est précisément ça qui donne la liberté à Paul de présenter sa demande, une demande compliquée. Ce sujet délicat, de dire à son compagnon de combat, tu peux accueillir celui qui t'a trahi. Si tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. C'est ça qu'il lui dit. Alors moi, je ne sais pas vous, mais je souhaite pouvoir aborder tous les sujets, même les plus compliqués, avec ma famille dans l'Église. Je souhaite avoir des associés dans la foi, des compagnons de combat, des amis, et vous ? Je pense que ce souhait passe par un engagement dans le service du royaume. Cela passe par une mise au travail et du temps passé ensemble. Pour le week-end de rentrée, le sujet sera autour des relations de qualité. Vous allez recevoir une information très prochainement là-dessus. Ayez plein d'affection les uns pour les autres. C'est la thématique de la rentrée. Je pense qu'on va pouvoir aller plus loin dans ce thème. Mais c'est vraiment un souhait que j'ai au plus profond de moi. Et la lettre de Paul adressée à Philémon, c'est un bon exemple de ça. Troisième personnage, Paul. Que pouvons-nous tirer de l'attitude de Paul ? Paul, ici, c'est le médiateur. C'est le tiers dans une situation très, très délicate. Et il a à cœur une restauration entre Philémon et Onésime. Paul, il est animé d'un amour authentique pour Onésime. Et il le prouve en se montrant prêt à payer pour tout vol ou tout mal que celui-ci aurait commis. Il s'engage. Il s'implique dans la vie de ce jeune croyant. Alors c'est vrai que ça doit encourager Onésime de se sentir soutenu comme ça. Ça fortifie sa foi et ça va l'aider à retourner vers son maître. Vous savez, les nouveaux convertis, ils ont souvent besoin de l'engagement de chrétiens un peu plus matures. Soyons-y attentifs à ça. On a eu 17 baptêmes il y a peu. Prenons soin de ces jeunes baptisés, demandant des nouvelles. Pour les anciens dans la foi, nous pouvons nous investir, comme Paul le fait avec Onésime, en les aidant dans les études bibliques, de la prière, des temps sympas autour d'un café, de l'encouragement, du partage d'expériences, du soutien, de l'amitié. C'est ce que Paul a dû faire pendant des années avec Onésime, pour qu'à un moment donné, Onésime ait suffisamment confiance pour accepter de retourner. J'ai fait un camp en famille qui a été organisé au mois de juillet. Il fallait qu'on propose une personne qui s'engageait à prier pour notre famille tous les jours. Alors, je trouvais que c'était une superbe initiative. Alors, nous, on a demandé à Patricia, je crois qu'elle est là, Patricia, si elle acceptait cette mission. Et on s'est senti soutenus. Et je pense qu'elle-même, elle a pris du plaisir dans cette implication. Elle était là avec nous. Elle recevait des nouvelles, je sais, régulièrement. Alors, supportons-nous les uns les autres, dans le bon sens du terme. C'est bien ça, c'est bien ça. En y regardant de plus près, je trouve aussi qu'à travers cette lettre, on a un exemple intéressant sur la façon d'agir en tant que, quand il y a des conflits entre chrétiens. J'ai parlé de beaucoup d'amour, etc., et c'est normal. Mais il arrive souvent, parfois, que dans l'Église, il y ait des difficultés. Et je trouve que cette lettre nous donne quelques jalons, quelques bonnes pratiques, je dirais. Parce que je crois que quand il y a conflit, L'idée, ce n'est pas juste de calmer le jeu. L'objectif qu'on doit avoir, finalement, c'est d'essayer de restaurer une relation saine. Parce qu'Onésime et Philémon, ils vont devoir rebosser ensemble. Hein. Donc, on ne peut pas juste calmer le jeu. À cet effet, je pense que la première chose qu'on peut retenir, c'est que Paul rappelle sans cesse, à plusieurs reprises, que les deux font partie de la famille de Dieu. Ce n'est pas toujours simple, la famille. Mais c'est un lien qui ne se brise pas. Mais j'ai deux frères, Franck et Sébastien. Ce seront toujours mes frères, même si on se dispute. Ça n'arrive pas ou peu, mais même si on se dispute, ce sont mes frères. Ce lien n'a rien à voir avec les situations qu'on traverse. Ils sont mes frères. Et remarquez comment Paul le leur rappelle, ça. Il se rapproche des deux parties en appelant mon frère, Philémon, mon fils, Onésime. On parle quand même d'une situation de fuite, de trahison. Mais il leur rappelle ça. Le deuxième point que je vois dans ce rôle de médiateur que Paul a pour restaurer une relation de confiance, c'est que Paul, malgré son autorité d'apôtre, il adresse une requête à Philémon. Il n'adresse pas un ordre. Alors la situation de médiation, la facilité pour être d'utiliser son autorité pour arranger les autres, pour arranger la situation, les choses. Il aurait pu dire « Attends, mon cher Philémon, c'est quand même le gars qui a été appelé sur le chemin de Damas, celui qui a été envoyé à travers l'Europe, envoyé par le Seigneur, c'est le grand apôtre qui t'écrit. Alors tu vas m'écouter gentiment et tu vas faire une petite place à Onésime, là, bien au chaud. » Il aurait pu utiliser ça. Mais Paul, il joue pas cette carte, même si à un moment donné, il fait une petite allusion à ça. Mais au contraire, il envoie une requête avec du tact, avec de la courtoisie. Et ce qu'il va rechercher, c'est l'adhésion volontaire et non pas une soumission à des règles ou à une autorité. Sinon, encore une fois, la confiance, l'envie de travailler ensemble, elle est restaurée qu'à court terme, mais pas sur le long terme. C'est un peu comme quand je prends mon fils qui fait la tête là, en lui disant « Tu vas dire pardon !» et je lui serre le bras. Alors il va dire pardon, mais parce que je le force à dire pardon. C'est pas ça. Paul fait appel à l'amour chrétien, non au pouvoir de l'autorité. Il y a ce verset. Hein. « C'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête », écrit-il. Paul a même tendance à se rabaisser. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il se définit comme un prisonnier. Il se définit comme un vieillard. Et dans sa position de médiateur, il se place à l'égal de Philémon, comme son ami. Dans les rapports humains, le tact, ça produit de bien meilleurs effets qu'un ordre, la bonté. Le texte nous rappelle de faire preuve de politesse, de respect dans nos rapports avec autrui. Alors maintenant que vous connaissez parfaitement cette lettre à Philémon, écrite spécialement pour lui, le responsable de l'église de Colosse, un des responsables, cela peut être une toile de fond pour la lecture de l'épître aux Colossiens. D'ailleurs, savez-vous qu'on retrouve Onésime, il n'est pas que là-dedans, on le retrouve au chapitre 4 de Colossiens. On le retrouve parce que, figurez-vous, il va accompagner un autre chrétien qui s'appelle Tychique pour justement remettre la lettre aux Colossiens écrite par Paul. Regardez comment il est présenté. Colossiens 4, verset 7. Tychique, qui est notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je vous l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Regardez comment Onésime est présenté. Si vous n'avez pas lu Philémon, vous n'avez même pas une idée qu'il était esclave à un moment donné. Le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Il n'y a plus d'esclaves ici. Il n'y a plus de barrières ici. Onésime est le frère bien-aimé, partie prenante de la famille de Dieu. Dans le même esprit, rappelez-vous les versets que j'ai lus dans Colossiens, au démarrage du culte. Maintenant, vous allez vous mettre à la place de Philémon, qui découvre cette lettre adressée à toute l'Église et qui est apportée en direct par l'esclave qui a fui. Vous imaginez la tronche, excusez-moi, de Philémon. Il retrouve son esclave qui revient, qui lui apporte une lettre. C'est Colossiens. Est-ce que tu peux remettre la toute première slide ? Mettez-vous, Philémon reçoit cette lettre qui est adressée à l'Église, mettez-vous à sa place. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, il manque. Revêtez-vous, j'imagine, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a à se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça vous parle, ça ? Tout comme Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Vous savez, on est tous des onésimes. On a tous été esclaves, tous esclaves du péché. On a tous commis des fautes impardonnables. On est tous coupables du châtiment de notre maître, à qui on a désobéi. Peut-être même qu'on a fui. Le plaidoyer de Paul en faveur d'Onésime, c'est l'image de Christ. C'est ce qu'il a fait pour nous. Tout comme l'apôtre a véritablement intercédé en faveur d'un esclave, le Seigneur intercède pour nous, qui sommes esclaves du péché, qui étions esclaves du péché. De même qu'Onésime pourrait être réconcilié avec Philémon, de même, nous nous sommes réconciliés avec Dieu à travers Christ. Paul a offert de payer les dettes de l'esclave. Tout comme Christ a payé pour mes fautes. Il y a quand même une différence majeure, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais Paul a écrit « Moi je paierai, c'est du futur. S'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi je te rembourserai. » Mais notre Sauveur n'utilise pas le futur. C'est déjà fait. Tout a été accompli. Il a été livré par nos fautes. Il est ressuscité pour notre justification. Alors l'illustration par cette lettre, elle est encore loin du modèle de Christ. Mais elle nous rappelle la réalité qui a été offerte par Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Ouais, je m'appelle David, je ne m'appelle pas Onésime, mais moi aussi j'ai un médiateur comme Paul, qui a tout pris à son compte, pour que je puisse m'approcher du Maître Tout-Puissant. Moi aussi je suis au bénéfice de cette lettre de recommandation qui me permet de revenir vers le Père. Et même si j'ai fait du tort, et j'en fais, Jésus l'a mis sur mon compte, sur son compte. Il a déjà remboursé. Nous aussi, nous étions inutiles. Nous avons fait du tort à Dieu. Et par conséquent, nous étions ses débiteurs, avec une dette importante qu'on ne pouvait pas payer. Nous avons fui, mais il nous a rachetés. Alors j'aimerais vous laisser pour terminer avec ce verset que l'on peut lire dans Timothée 2, verset 5. C'est tout à la fin, merci. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen.